Les dépositions. À la reprise de l'audience, M. Robert Gentien fut appelé. Bien mis, bien peigné, bien pommadé, sa longue barbe rousse séparée en deux parties égales, M. Robert Gentien est bien ce que nous disions hier, la correction même. C'est un homme de haute taille, maigre, bilieux, qui paraît ses 34 ans. M. Gentien, toujours souffrant des suites de blessures, et il fallait s'y attendre, on ne peut plus intimider. Il fait, d'une voix basse, absolument inintelligible, un récit que M. Bachelier a la charité de ne pas faire répéter. Reprenant seulement la partie capitale de sa déposition, M. le Président demande au témoin s'il a, comme sa maîtresse, l'en accuse, conseiller à Mme Bière de recourir à des pratiques abortives. M. Gentien. Oh, loin de là, M. le Président. Elle m'a écrit à cet égard, à Naples, où je me trouvais, une lettre insensée. Je l'ai dissuadée de toutes mes forces de ce projet. Mais de retour à Paris, n'avez-vous pas obligé de se rendre chez un médecin, le docteur Rouche, pour lui demander de faire disparaître cette grossesse ? Non, monsieur le Président, je ne vais jamais parler de ce médecin. Mouvement. Nous regardons l'accusé, calme, les yeux fixes, avec une expression de tristesse et de résignation touchante. Barry Biard ne quitte pas du regard son ancien amant. Et tout à coup, elle se lève d'une voix grave. « Souvenez-vous, lui dit-elle, le soir où vous m'avez parlé pour la première fois du docteur Rouche. Pour la première fois aussi, j'ai senti mon enfant tressaillir dans mon sein. Alors je vous ai dit, « Robert, voici un avertissement de Dieu. » Émotion prolongée. « Vous n'avez pas voulu, monsieur, assister à l'accouchement ?»« Oh, à ce moment-là, je fus obligé de quitter Paris. » « Avez-vous exigé que l'enfant fût placé en nourrice à Saint-Denis ?»« Non. »« Si, il l'a exigé !»« C'est Mademoiselle Bière qui a tout fait elle-même. »« Dites-moi, avez-vous conseillé à l'accusé de ne pas reconnaître sa fille ?»« Mais en effet, mouvement. »« Oh, c'était à cause de sa mère, à elle. »« Ah, c'est qu'elle vous rend responsable de la mort de cette pauvre enfant. » Les soins maternels, dit-elle, lui ont manqué à cause de vous. Monsieur Gentien, avec ennui. Oh, elle a toujours soutenu cette thèse-là. Mais tout ce qu'il dit est faux. Ici, Maître Lachaud intervient. La scène est de plus en plus dramatique. Maître Lachaud à Monsieur Gentien. Vous n'avez jamais voulu voir l'enfant? Monsieur Gentien. Non, j'étais très affligé de sa naissance, puis il fallut aller à Saint-Denis. Maître Lachaud. Mais un jour, sa mère l'a fait amener chez elle à Paris. Vous êtes venu, selon votre habitude, et elle vous a supplié de le voir. Oh oui, mais il y avait là une inconnue. Quelle inconnue ? La nourrice. Nouvelles exclamations dans la salle. Oh ! Ces réponses impressionnent vivement le public. Marie-Pierre se penche sur la barre et regardant fixement son ancien amant. « Mais, s'écria-t-elle, vous pouviez le voir seul, cet enfant. Je l'eusse fait porter dans ma chambre. La nourrice se fut éloignée. C'est ce soir-là que je vous ai dit, « Faites bien attention, Robert. Votre existence tient à celle de ce petit être. » S'il meurt, vous mourrez. Monsieur Gentien se retire. Les dépositions qui suivent sont celles des témoins à charge. Il faut le dire, car à l'audience, on croirait entendre les meilleurs amis de Marie Bière, cités par la Défense et non par le ministère public. Et ce sont ses anciens maîtres, des artistes, ses camarades, ses concierges. Jamais accusé de se présenta devant ces juges entourés d'aussi éloquents témoignages d'estime et de considération. Madame Goujon, rentière à Bordeaux. Bon, il y a 30 ans que je connais la famille Bière. Marie a été une jeune fille absolument charmante, bonne, point coquette, aimante, un bon cœur. On a voulu la marier à un homme plus âgé qu'elle, mais fort riche. Elle a refusé ce parti. Monsieur Aucoin, avocat à Auch. Oh, je connais Mademoiselle Bière depuis 1871. Je la voyais chaque année lors de mes voyages à Paris. Lorsque Monsieur Gentien, que je connaissais également, lui fit la cour, il me demanda ce que je pensais d'elle. Et je lui dis, c'est une fille sage. Mademoiselle Bière est une nature excellente, douce, honnête. On appelle Monsieur Daubé, chef d'orchestre de l'Opéra Comique. Nos lecteurs se souviennent peut-être qu'un journal avait prêté à Mademoiselle Bière un fort vilain rôle. L'accusé avait essayé, disait-il, de désunir M. Danoré et de sa femme. Il n'y a plus d'obscurité à cet égard. Marie Bière sort complètement lavée de cette accusation calomnieuse. Je dément formellement, a dit M. Daubé, ce qui a été dit dans cet article. Il fait allusion à des faits absolument faux. Vient ensuite la concierge de la cité Gaillard, où Marie Bière habitait en dernier lieu. J'étais, dépose-t-elle, touchée de l'affection de Mademoiselle Bière pour son enfant, mais elle se plaignait souvent, en fondant en larmes, de ce que son amant ne voulut pas le voir. Quand la petite fille tomba malade et mourut, ce fut un désespoir affreux. J'ai vu un jour Marie Bière jeter à terre avec dégoût l'argent que lui envoyait son amant. Monsieur le Président Bachelier, et elle l'a repris ensuite, l'argent? Quelquefois, quand je lui laissais entrevoir l'espoir d'un mariage avec Monsieur Gentien, elle levait les yeux au ciel en disant « Hélas, il est trop riche! » Et puis elle se mettait à pleurer. Monsieur Humbert, ancien directeur des fantaisies parisiennes de Bruxelles. Oh, j'ai engagé Mademoiselle Bière il y a 2 ans. Elle devait débuter dans la fête des Bruyères, mais elle devint grosse et perdit la voix. Elle accepta avec beaucoup de douceur la résiliation de son engagement et retourna dans sa famille. Sa conduite à Bruxelles a été admirable. Monsieur Escudier, ancien directeur du théâtre italien. Ah, Mademoiselle Bière a été ma pensionnaire de 75 à 1877. Je ne puis de faire d'elle que des éloges. Monsieur Samuel David, compositeur, 19 rue de Provence. Mademoiselle Bière devait débuter dans un ouvrage de moi, La Fée des Bruyères. Elle avait une très belle voix, sa conduite a été excellente, sa mère ne la quittait pas. Monsieur Giacomelli, agent théâtral.
J'ai souvent procuré à Mademoiselle Bière des engagements pour des concerts. J'ai pour elle une très grande considération. C'était une jeune fille d'une tenue parfaite.
Monsieur Saint-Yves Bax, professeur au conservatoire. J'ai apprécié Mademoiselle Bière comme artiste et comme femme. Comme artiste, je dois dire qu'elle avait la voix molle et souvent enrouée. Je n'ai jamais cru appelée à un grand avenir. Mais comme femme, je dirais qu'elle a toujours eu au conservatoire une excellente tenue. Mademoiselle Victorine Husson, ancienne domestique de l'accusé. C'est une petite vieille qui paraît absolument inintelligente.
Ma maîtresse était d'abord très gaie, dit-elle, quand elle se lia avec Monsieur Gentien. Et peu à peu, elle est devenue triste et disait fréquemment, Oh, si Robert m'abandonne, je le tuerai.
Et n'a-t-elle pas aussi tenu devant vous ce propos? Bon gré mal gré, Robert Gentien m'appartiendra.
Oh, monsieur, elle a dit également qu'elle avait acheté un revolver pour lui faire peur.
L'accusé, se levant. C'est très vrai, mais Victorine ne dit pas dans quelles circonstances je lui ai parlé ainsi. Lorsque j'eus acheté cette arme, elle s'effraya. Où voulez-vous tuer? Demanda-t-elle. Et je crus devoir la rassurer. Mais non, lui dis-je, c'est pour effrayer Monsieur Gentilin. Votre maîtresse était-elle jalouse? Un silence. Vous savez bien ce que c'est que d'être jalouse.
Oui, elle était jalouse de monsieur.
Avez-vous vu l'accusé s'exercer chez elle à tirer au pistolet?
Oh non, jamais, monsieur.
Monsieur Munier, ancien photographe.
Ah, il y a 2 ans, mademoiselle Bière est venue me demander de faire son portrait. Elle revenait alors de Biarritz. Elle me dit, faites-moi bien belle, j'espère me marier bientôt. J'ai trouvé mademoiselle très convenable, très modeste, très comme il faut. Et sur ces instants, j'ai retiré de mon exposition publique une de ses photographies qu'elle trouvait trop décolletée. Immédiatement après lui, le docteur Rouche est appelé. Mouvement d'attention dans la salle. Le docteur Rouche, dont le nom se trouve mêlé à la partie la plus mystérieuse du procès, est un homme de 50 ans, brun, trapu, au crâne dénudé, aux favoris en broussailles, aux yeux bridés, au front grimaçant. Il est gascon de Toulouse et cela s'entend. Sa physionomie rappelle beaucoup celle de Monsieur le Père. Soit dit sans vouloir manquer de respect à un ministre. Monsieur le Président, racontez ce qui s'est passé entre vous et l'accusé. Le docteur. Maman Dazobière est venue me demander de la débarrasser d'une grossesse. Elle était si triste que je craignis de la voir se suicider sous mes yeux. Alors j'essayais de la consoler. Elle me dit qu'elle était artiste lyrique, qu'elle avait perdu la voix. Je lui répondis que je soignais aussi les voix, et comme je chante, je la priais de se mettre au piano.
Et vous avez chanté la romance de Guillaume Tell.
Sourire. Oui, celle-là.
L'accusée ne vous a-t-elle pas dit qu'elle vous est envoyée par quelqu'un?
Oui, quelqu'un qu'elle n'a pas voulu me nommer.
Elle prétend que vous lui avez demandé 1 500 francs pour lui procurer l'avortement.
Bon, je ne me rappelle pas lui avoir rien demandé. Je lui ai dit au contraire qu'en qualité d'artiste, je lui ferai l'opération pour rien. Je craignais en effet qu'elle n'alla dans une autre maison et qu'on ne lui fît mal.
Connaissez-vous Monsieur Gentien?
Non.
Connaissez-vous Monsieur Houdinet, l'administrateur de ses biens?
Nullement.
L'accusé.
J'avais dit au docteur que je ne pouvais nommer la personne qui m'adressait à lui. Il m'a en effet consolé, et il a fini par m'engager à ne rien faire du tout. Et comme je n'étais venu chez lui que pour satisfaire au désir de M. Gentien, je n'ai pas eu de peine à m'y résoudre. Je me réservais, et c'est ce que j'ai fait, d'effrayer Robert en lui disant que le docteur Rouche demandait une somme considérable, 3 000 francs, et qu'il faudrait brûler le fœtus.
Le président au docteur. A-t-il été question de cela entre vous?
Non, j'ai seulement proposé à mademoiselle de me charger de placer l'enfant lors de sa naissance. Il fallait bien, par tous les moyens possibles, la dissuader de se faire avorter.
L'accusé reprend de nouveau la parole et s'adressant directement au docteur Rouche.
« Avez-vous oublié, dit-elle, ce récit que vous m'avez fait d'une cure merveilleuse opérée par vous? Vous aviez, me dites-vous, débarrassé une jeune fille qui se trouvait dans ma situation, et plus tard cette jeune fille avait fait un beau mariage.
Oh, c'est inexact. J'ai dit au contraire que je veux soigner une jeune fille, que je m'étais chargé de placer l'enfant et qu'elle s'était ensuite très bien mariée, sans qu'il se doutât de rien. C'est autre chose. Le docteur Rouche a été l'objet de renseignements de police. On a saisi à la poste des lettres qu'il recevait. Aucune n'a paru suspecte.
Maître Lachaud.
Pardon, en voici une qui est bien étrange. L'éminent avocat donne alors la lecture de la curieuse lettre que voici. Elle était adressée au docteur Rouche et fut saisie par l'instruction. Mon cher monsieur Rouche, je vous en supplie, répondez de suite à ma lettre pour me tranquilliser. Je crains bien d'être enceinte et je ne puis supporter cette idée. Il doit y avoir un moyen de remettre les choses dans leur état naturel. Mon mari ne sait rien La science n'est pas d'un côté. Il est impossible qu'il n'y ait pas quelque chose à faire. Au commencement, je vous conjure.
Maître Lachaud trouve cette lettre singulièrement significative et de nature à intriguer vivement sur la nature de la profession du témoin. Monsieur le Président, fait observer que tous les médecins reçoivent des lettres semblables. Du reste, ajoute-t-il, le docteur interrogé a déclaré que cette lettre venait d'une femme mariée, très exaltée, un peu folle, aussitôt que sa santé subissait quelque atteinte, mais au demeurant très bonne mère de famille. Maître Lachaud répond qu'il a au dossier des renseignements sur la réputation du docteur Rouche et qu'il les lira. L'incident est clos. Le docteur Blanche est introduit. Le célèbre aliéniste a été chargé par l'instruction d'examiner l'état mental de Marie Bière de concert avec le docteur Mottet. Dans une langue claire, élégante, choisie, le docteur Blanche rend compte, sommairement, des observations qu'il a faites au point de vue de la responsabilité légale. Il a été amené, dit-il, à s'occuper de l'accusé à la suite d'un incident curieux. Il y a 3 ans, Madame Bière, mère, ayant été arrêtée pour un léger délit, elle fut relâchée bientôt. Jugez étudier son état d'esprit, car elle paraissait folle. Elle était effectivement sous l'influence d'une surexcitation mentale. Aussi, quand je lus dans les journaux cet hiver le nom de l'accusé, ce nom me frappa. Je me rappelais l'incident dont je vous parle et prévint le parquet. J'ai eu plusieurs entrevues avec Mademoiselle Bière. Cette jeune femme est d'une famille d'aliénés. Sa mère a été à plusieurs reprises atteinte de folie. Un de ses oncles, m'a-t-elle dit, est mort à l'asile de Pau. Oh, je ne parle pas du frère, une nature indisciplinable et sauvage. Il a abandonné ses parents, s'est embarqué pour l'Amérique du Sud. On m'a dit qu'il gardait maintenant des troupeaux dans les pampas de la République argentine. Et le docteur Blanche arrive à ses observations sur Mademoiselle Bière elle-même. Quelle est cette nature singulière? Cette femme est-elle responsable de ses actes? Élevée, poursuivit-il par une mère extravagante, tantôt mélancolique, tantôt nerveuse, jusqu'à la fureur, menacée un jour de coups de couteau par elle, menacée un autre jour d'être jetée par la fenêtre, l'accusée a hérité de cette disposition maladive. Toute petite, elle donna des marques d'exaltation. Elle m'a raconté qu'à 12 ans, au pensionnat, elle s'était prise d'une affection violente, toute de tête et de cœur, pour une de ses compagnes. Et cette jeune fille, lui ayant paru indifférente, Marie Bière fut au désespoir et essaya à 2 reprises de se suicider. Cette excitation s'est maintenue pendant toute la jeunesse de l'accusée. Et actuellement, Marie Bière est plus que jamais dominée par la passion, par les sentiments. Elle a dit, elle a écrit, que le jour où son enfant était mort, elle avait ressenti de tuer son amant. Cette affirmation m'a paru complètement sincère. Je sais bien qu'elle avait songé au début de la grossesse à se faire avorter. Mais le sentiment maternel s'est éveillé en elle, profond, tout puissant. Du jour où elle a senti remuer son enfant. Je ne doute pas que ce sentiment maternel, exalté, exagéré, ait été le mobile de la tentative de meurtre du 7 janvier. Le docteur insiste sur ce point avec une grande énergie. Je ne suis ici, dit-il. Je ne suis jamais pour l'accusation ou pour la défense. Je suis un homme de conscience. Et il conclut dans ces termes. Oui, lorsqu'elle a tiré sur M. Gentien, l'accusée a su ce qu'elle faisait. Mais elle était alors sous l'influence de passions telles, d'une telle exaltation morbide, qu'il lui était peu facile de résister aux sentiments qui la dominaient et qui oblitéraient chez elle le sens moral. Sensation dans la salle. Le docteur Mottet déclare dans une brève déposition s'associer pleinement aux conclusions de son éminent confrère. Voici venir maintenant un témoin bien sympathique. C'est une charmante jeune femme, une artiste, Madame Mathilde Delorme, l'amie intime de l'accusé. Elle regarde Marie Bière avec l'expression d'une sincère douleur. « C'était ma meilleure amie, dit-elle. Début 1963, nous étions intimes. J'ai bien désapprouvé sa liaison avec M. Gentien. Je la voyais entrer dans une voie un peu convenable et je ne me suis pas lassé de le lui dire. Marie est une nature douce et bonne. Elle est évidemment peinée du caractère indifférent de M. Gentien et de son aversion pour sa fille. Et avant qu'elle ne fût devenue la maîtresse de cet homme, elle était irréprochable de toute façon. Nous sortions toujours ensemble avec sa famille. J'étais comme sa sœur. C'est M. Gentien qui l'a détournée de la voie droite. Madame Favreau, sage femme à Montmartre. L'accusé a fait ses couches chez moi. La délivrance était très pénible. Mademoiselle Bière avait beaucoup de chagrin. Elle espérait que M. Gentien s'attacherait à elle en aimant sa fille. Maître Lachaud. Ne vous inquiétez pas, ma fille est si belle. Quand il la verra, il ne pourra pas faire autrement que de l'aimer. Oui, monsieur. Mais elle ne voulait pas insister près de lui s'il refusait de voir l'enfant. S'il a refusé, je ne lui montrerai pas, me disait-elle souvent. Et l'accusée vous a-t-elle fait part de ses projets de mariage avec M. Gentien ? Mais elle espérait. Je le vaux bien, me disait-elle. Je puis bien élever, ma famille est honorable. Elle m'a paru avoir pour son amant une affection excessive. Et pourtant, elle se plaignait de lui à cause de sa froideur. Et quand M. Gentien venait la voir, il ne voulait même pas que la robe de mademoiselle toucha son pantalon. Suivent deux amis de M. Gentien. M. Courcel de Libert, officier de marine, et M. Esnault-Beldry, architecte. Ce dernier a conseillé à M. Gentien, qui était très effrayé du caractère de son ancienne maîtresse, de prévenir la préfecture de police. M. Gentien disait que cette femme l'ennuyait énormément, et que c'était une folle, capable de le tuer. M. Berthaud, brigadier de gardien de la paix. Oui, c'est moi qui ai arrêté l'accusé. Lorsque j'ai pris son revolver, c'est pas la peine de craindre que je me tue, m'a-t-elle dit. S'il était mort, oui. Et elle m'a dit encore, j'ai tiré sur lui, parce qu'il m'a forcé d'envoyer mon enfant sans nourrice, et qu'il est cause de sa mort. L'accusé interrompt la déposition du témoin. Elle se lève et d'une voix ferme. « Aujourd'hui, dit-elle, je n'ai plus l'intention de recommencer. Certainement, M. Gentien n'est plus digne que je me mette dans l'embarras pour lui. » Et elle se rassied, très calme. Le gardien de la paix, Denis, a entendu l'accusé s'écrier au poste de police. « Le misérable, il m'a séduite. Il m'a tué mon enfant. Si on m'acquitte, je recommencerai. » Mouvement. Marie Bière conteste énergiquement l'exactitude de cette expression « si on m'acquitte ». Les dépositions sont terminées. Monsieur le Président donne lecture des témoignages écrits de quelques personnes qui n'ont pu se résoudre dans l'audience. Ce sont Monsieur le Docteur Bergeron, qui a soigné M. Gentien et qui déclare que sa vie n'est plus en danger. Mademoiselle Lucille Marie Marthe Collat, dite d'Avray, 22 ans, artiste au Palais Royal, qui a été surprise par l'accusé dans le cabinet de toilette de M. Gentien, un des jours où Marie Bière se rendit chez son amant après la rupture. C'est enfin la nourrice de Saint-Denis qui a déclaré dans l'instruction que la mère était folle de sa fille, que c'est des recommandations à n'en plus finir, et qu'on a fait à la pauvre enfant un beau petit enterrement auquel Mademoiselle Bière n'a pu assister parce qu'elle était trop malade de son chagrin. Mouvement d'émotion dans l'auditoire. Et nous arrivons ici à une partie curieuse, peut-être la plus pittoresque du procès. Les confrontations. L'information a été conduite d'une façon admirable, avec une grande élévation, un souci de la vérité poussé jusqu'au scrupule, par M. le juge d'instruction Guillot. Ce magistrat ne s'est pas borné à faire noter mot pour mot les déclarations de l'accusé, laquelle du reste dictait elle-même au greffier ses interrogatoires, aussi remarquable par l'élégance du style que par la netteté et la finesse des idées. Il a encore indiqué soigneusement l'attitude de Marie Bière et celle des témoins, particulièrement dans les confrontations principales. Deux de ces confrontations sont de nature à jeter une vive lumière sur le procès. C'est pourquoi nous les donnons en notant au passage l'impression que leur lecture a produite à l'audience. Voici la première. Elle met en scène un personnage relégué jusqu'ici au second plan. C'est M. Houdinet, l'administrateur de la fortune de M. Gentien. M. Houdinet est un homme de 50 ans qui a été en relation d'affaires avec Marie Bière et n'a pas dédaigné de lui faire la cour pour son propre compte, d'ailleurs sans succès. Il s'est trouvé bien gêné, bien ennuyé, bien malheureux en face de la jeune femme. Lisons plutôt. Marie Bière. « Oh, je ne m'attendais pas, monsieur, à vous revoir dans une aussi pénible circonstance. Pardonnez-moi, je vous en prie, de vous avoir mêlé à cette affaire en conservant vos lettres que la justice a saisies chez moi. Oui, j'aurais mieux fait de les détruire puisque vous me le demandiez. Mais j'ai été retenu, je ne sais par quoi. Plus vous me demandiez de les brûler, plus j'avais envie de les garder. » D'ailleurs, vous avez gardé les miennes. Nous sommes donc aussi coupables l'un que l'autre. Je comprends que votre situation soit très pénible, mais je vous demande de dire la vérité et de reconnaître que vous me donniez raison quand je vous racontais de quelle façon indigne M. Gentien me torturait. Je vous remercie de votre déposition. J'y retrouve le souvenir très effacé de la sympathie que vous m'avez témoignée. Mais il faut que vous la complétiez sur certains points. Je vous avais complètement ouvert mon cœur. Je vous avais tout raconté. Ne vous ai-je pas dit que M. Gentien avait été indigne pour son enfant et qu'avant sa naissance, il m'avait envoyé chez un médecin qui devait faire passer ma grossesse? N'avez-vous pas, comme un honnête homme, partagé mon indignation? Ne m'avez-vous pas dit... Robert est une mauvaise nature, je le reconnais bien là. Oh, j'en aurais bien long à raconter s'il voulait répéter tout ce que vous m'avez dit sur son compte. Encore une fois, je vous demande pardon de vous placer dans une situation si délicate, mais que voulez-vous? Je ne peux pas faire autrement. Monsieur Houdinet, comment? Vous m'avez parlé d'un médecin... chez lequel Robert vous aurait envoyé dans une mauvaise intention. Bon, je n'ai aucun souvenir de cela. Mais voyons, je vous en prie, soyez franc, quoi qu'il vous en coûte. N'avez-vous pas répondu? Oh, ce sont bien là ses habitudes. Il a déjà exigé la même chose d'une de mes maîtresses. Oh, je n'ai aucun souvenir d'avoir tenu ce langage. Mais ignorez-vous ce qu'il a fait? Répondez-moi sincèrement. Monsieur Houdinet, après une longue hésitation, il ne me l'a jamais dit. Bon, je ne crois pas carré capable de pareilles choses. Peut-être, oui, quelquefois a-t-il prononcé sur ce sujet des paroles un peu imprudentes, un peu légères. Mais allez donc jusqu'au bout, cela vaudra mieux. Voulez-vous attendre jusqu'à demain? La mémoire vous reviendra sans doute. Vous pouvez faire une confusion. C'est peut-être Robert qui vous a parlé de ces choses. Il m'en a parlé, mais vous aussi. ce qui prouve bien qu'elles étaient vraies. Vous exagérez tous les sentiments. Moi, oui, je vous ai dit que Robert était léger, changeant, dur pour vous peut-être. Mais je n'ai pas été au-delà. Vous n'avez pas compris. Je voulais vous calmer, et ce n'était pas en faisant l'éloge de Robert que j'y serais parvenu. Ma pensée était que, vous voyant abandonné par M. Gentien, vous désiriez avoir de l'argent, une compensation. Alors vous me prenez pour une femme qui recherche l'argent. Non, je ne dis pas que vous y ayez agi dans un but de spéculation, mais vous trouviez juste que Robert vous fît une situation. Vous m'écriviez que vous vouliez vous réhabiliter par le travail. Et le juge d'instruction ajoute, pendant toute la durée de cette confrontation, M. Oudinet a montré le plus grand trouble. Par moments, la voix lui manquait. Il fallait que l'inculpé réitérât à plusieurs reprises ses interpellations, tantôt avec douceur, tantôt avec énergie, pour obtenir une réponse embarrassée ou ambiguë. Nous donnons lecture du procès-verbal à M. Oudinet. Lui-même le relit plusieurs fois. Il prend la plume pour le signer. Puis il s'arrête et reste quelques minutes sans rien dire. Nous lui rappelons que ses phrases ont été textuellement reproduites, que ses réponses sont acquises à l'inculpé, mais qu'il peut faire après réflexion de nouvelles déclarations dont la justice aura apprécié la sincérité, que tout au moins il doit faire connaître le motif qui l'empêche de signer. À ce moment, l'inculpé, prenant la parole, lui dit « Je comprends votre ennui. Il est cruel. Je ne veux pourtant pas passer pour une menteuse. Vos réponses ont été plutôt atténuées. Et je regrette que quelques-unes ne soient pas venues se fixer sur le papier au moment même où vous les prononciez. Ainsi, quand je vous ai demandé, ignorez-vous que M. Gentien m'a envoyé une autre de ses maîtresses chez le médecin ? Il vous est échappé cette phrase. Ce n'est pas de sa bouche que je le tiens. » M. Oudinot ne répond rien. Il balbutie. Il se demande encore s'il signera. Et comme l'heure est avancée, nous remettons au lendemain cette confrontation, après avoir fait signer l'inculpé et avoir fait promettre à M. Oudinet de ne pas voir M. Gentien. Voilà, à coup sûr, une scène très intéressante. Les deux caractères s'y révèlent merveilleusement. La confrontation du lendemain ne fut pas moins curieuse. La voici. Monsieur Oudinet. Mon trouble d'hier n'avait d'autre cause que l'émotion. C'est la première fois de ma vie que je suis entendu comme témoin. Puis, vous comprenez, venir ici dans une prison, cela vous impressionne. Je suis horriblement nerveux. Marie-Bière. J'espère que la mémoire vous sera revenue. J'ai très mauvaise mémoire, précisément à cause de ma santé. Quels sont ces propos légers dont vous parliez hier et que M. Gentien vous aurait tenus ? Il voulait dire qu'on peut avoir des relations avec une femme pour avoir d'enfants. Mais vous ne voulez pas accuser votre ami ? C'est un parti pris. Vous ne direz rien. Tenez, vous souvenez-vous de m'avoir envoyé un bouquet qui m'a beaucoup froissé ? Rire dans l'auditoire. Vous ne l'avez pas envoyé sous mon nom. J'ai cru que vous penseriez qu'il venait de M. Gentien. Et vous m'avez répondu dans ce sens. Marie-Bière souriant. C'était pour vous donner une leçon. Rire. Je n'ai pas voulu que vous ayez la satisfaction de croire que je vous attribuais cet hommage. Nouveau rire. N'est-ce pas très piquant ? Confrontation de Marie-Bière avec M. Gentien. Nous n'avons pas besoin de dire que l'accusé fut confronté également avec son ancien amant. Marie-Bière était fort souffrante. Monsieur Guillot fit venir Monsieur Gentier dans son cabinet et lui dit: l'état de santé de l'inculpé ne lui permettant pas de subir une longue confrontation, nous allons vous communiquer les questions qu'elle désire vous poser et qu'elle a écrites elle-même. Vous y répondrez ensuite, vous serez mis en sa présence pendant quelques instants. Mais, pour la complète intelligence de ce qui va suivre, nous devons constater que par suite d'une regrettable indiscrétion de M. Oudinet, vous connaissez déjà les allégations de l'inculpé, M. Gentien. Oui, il m'est revenu indirectement que cette femme portait contre moi des accusations odieuses. Je proteste. Monsieur Guillot, voici les questions que vous pose Marie Bière. Première demande. Lorsque le 16 octobre 1871-17, j'étais à vous pour la première fois, étais-je une femme honnête et m'avez-vous considéré comme telle? Monsieur Gentien, la question est embarrassante. Une jeune fille qui accepte un rendez-vous et qui vient chez un jeune homme exagère tout au moins les choses en se faisant passer pour une femme honnête. Monsieur Guillot, deuxième demande de Mademoiselle Bière. Lorsque j'ai été grosse, avez-vous douté un instant que ce fût de vous? Monsieur Gentien, j'en ai pas douté un moment. J'en doute maintenant tellement, j'ai appris des choses épouvantables. Monsieur Guillot, troisième demande. N'avez-vous pas dit qu'en étant à Bruxelles, j'avais essayé pour vous être agréable de faire passer ma grossesse? Bon, je lui ai répondu que ses craintes pouvaient être chimériques, mais qu'en tout cas, elle ne devait rien faire. Monsieur Guillot, quatrième demande. Ne m'avez-vous pas envoyé chez le docteur Rouche pour me faire avorter? Monsieur Gentien, vous êtes une infamie. Elle ne voulait pas aller chez le médecin de sa famille. Je ne voulais pas lui donner le mien. Le hasard me fit lire dans les journaux les réclames du docteur Rouche. Et j'ai donné son nom à l'inculpé. Elle ne savait pas encore si elle était enceinte ou non. Ne m'avez-vous pas ordonné d'aller faire mes couches chez une sage-femme et d'y abandonner mon enfant? Mais il n'a jamais été question d'abandonner l'enfant. Je suis un trop galant homme pour donner de pareils conseils. Sixième demande. Ne m'avez-vous pas conseillé aussi de dire à ma mère que l'enfant était mort en venant au monde? Ce sont des inventions absurdes. Septième demande. Ne reconnaissez-vous pas là vos paroles? Cet enfant est ma bête noire. Elle me fait horreur. Ne m'en parlez jamais. Je ne veux pas la voir. Oh, tout ce que j'ai pu dire, c'est que j'étais très malheureux de la venue de cet enfant qui me faisait une position fausse et que je désirais de ne pas l'avoir. Huitième demande. Et lorsque j'ai fait venir ma fille dans l'intention de vous la montrer, ne vous y êtes-vous pas opposé de la façon la plus offensante pour moi? Et ne vous ai-je pas dit alors: Robert, votre existence est attachée à celle de ma fille. Si elle meurt, je vous tuerai. Mais elle m'avait ménagé un petit coup de théâtre. Voyant que cela me déplaisait, elle a renoncé. Un jour, elle me dit: la nourrice a vu une veine bleue entre les yeux de la petite fille. Il paraît que c'est un signe de mort. Quelque chose comme ça. Ou, si ma petite fille meurt, je deviens folle et je te tuerai. Neuvième question. Et ne vous ai-je pas tenu à ce propos plus de 20 fois? Moi, je ne me souviens pas. Cette femme est bizarre, exaltée. Elle a pu être sincère dans les 6 premières semaines. Mais ensuite, elle a subi l'influence de sa mère, une mauvaise nature, qui a dû lui donner les plus détestables conseils. Maître Guillaume, dixième demande. L'argent que vous me donniez ne faisait-il pas horreur? Et en votre âme et conscience, croyez-vous que l'intérêt m'ait guidé? Oh, quant à être désintéressé, je le nie absolument. Elle a pu me l'écrire, mais elle n'en a jamais fait croire. Chez elle, tout a été calcul. Elle avait rêvé de se faire épouser et de mettre la main sur ma fortune. Monsieur Guillot, onzième demande. Avez-vous douté de l'honnêteté de ma conduite pendant la durée de nos relations? N'étiez-vous pas convaincu que je n'ai jamais été qu'à vous? Je crois que sa conduite a été bonne pendant nos relations. Du reste, elle a toujours été malade depuis sa couche. Quant au passé, il ne m'appartient pas. Dernière demande. N'étiez-vous pas convaincu que l'affection que je vous avais vouée devait être éternelle? Et ne trouvez-vous pas que votre conduite vis-à-vis de moi est celle d'un lâche? C'est un rêve d'imagination. J'ai le regret d'avoir à répondre que je me suis toujours conduit en parfait galant homme et que ma conscience ne me reproche rien, puisqu'en la quittant, je me fais une pension. L'accusé fut mis en présence de son ancien amant. M. Guillot lui donna la lecture des réponses de M. Gentien. Elle répliqua. « Je maintiens tout ce que j'ai dit, monsieur le contestataire, mais cela ne m'étonne pas, monsieur Gentien. Mais je vous donne le démenti le plus absolu, Marie-Bière. Vous êtes infâme, vous êtes la cause de la mort de ma fille. Si vous aviez laissé auprès de moi, elle serait vivante, et je n'aurais pas cherché à vous tuer. Je vous protège absolument, je vous ai pas empêché de garder votre fille. » Je suis responsable en aucune façon de sa mort. » Le juge d'instruction complétait cette confrontation saisissante par une note très curieuse sur l'attitude des deux personnages de la scène. Pendant toute cette confrontation, M. Gentien observe le plus grand sang-froid. Sa parole est claire et assurée. Quant à l'inculpé, sa pâleur est extrême. Elle fixe M. Gentien sans prononcer une parole. Elle accentue avec énergie les mots par lesquels elle lui donne un démenti. Puis, comme si cet effort l'avait épuisé, elle ne dit plus rien. Et au bout de quelques minutes de silence, nous sommes obligés de mettre fin à la confrontation. Lorsque M. Gentien est parti, la sculpée nous dit: j'étais bien sûr qu'on le préviendrait de ce que j'avais dit. Il a pu préparer sa défense, et moi mes forces m'ont abandonné. Oh, je suis comme morte. Lui, c'est un menteur, un malhonnête homme. Que Dieu me prête la force de pouvoir le confondre à l'audience. Sans cela, je ferais bien de mourir tout de suite. L'audience s'est levée après ses lectures et renvoyée au lendemain pour les plaidoiries. Le dénouement. Le réquisitoire a été prononcé au début de l'audience par M. l'avocat général Lefebvre de Vieilleville. Après une suspension, la parole est donnée à Maître Lachaud. Jamais le grand avocat n'a dû être plus magnifique et plus entraînant. Malgré la solennité de l'audience, sa plaidoirie, qui n'a pas duré moins de 3 heures et demie, a été prononcée au milieu des murmures d'admiration. Et à plusieurs reprises, des applaudissements et des bravos ont éclaté. Nous regardons Marie-Bière pendant que parle son éminent défenseur. Moins défaite qu'hier et comme résignée, la jeune femme porte son mouchoir à ses yeux et fond en larmes toutes les fois que son avocat parle de la pauvre petite fille morte. « Messieurs, dit Maître Lachaud, je n'ai jamais connu une femme plus malheureuse, plus digne de pitié que ma cliente. Elle avait les sentiments les plus droits, les passions les plus généreuses. Elle aimait le bien. Et la voici sur ce banc des accusés, désolée, tombée, n'ayant plus d'espoir en ce monde. Messieurs les jurés, je vous montrerai d'où est venu tout ce malheur, qui l'a causé. Et j'espère, après m'avoir entendu, vous tendrez la main à cette jeune femme pour l'aider à se relever. » Après avoir parlé de la famille et de l'enfance de l'accusé, après avoir montré Marie-Bière honorable, estimable et résistante à toutes les tentations, si pure, dit-il, qu'elle passait sans danger à côté du vice, Maître Lachaud arrive à sa liaison avec M. Gentien. Robert, j'en retiens, appartient à une certaine classe d'hommes qui n'aiment que les liaisons passagères. Voici la tendresse de ces messieurs. Quand ils rencontrent par hasard, au lieu d'une fille, une femme de cœur, ils disent qu'ils se sont emballés. C'est le terme à la mode. Rire. Eh bien, monsieur Gentien s'est emballé sur mademoiselle Bière. Elle était honnête, elle lui a résisté d'abord, et quand elle s'est enfin donnée à lui, elle l'a fait avec la conviction que cet amour serait sérieux, sincère et digne d'un galant homme. Monsieur l'avocat général a parlé de projets ambitieux. Il lui a semblé étrange, inadmissible, que cette jeune fille de bonne famille, artiste de talent et pleine d'avenir, n'ait pu jamais espérer devenir Madame Gentien. Pour lui, les convenances et la différence des fortunes devaient mettre un obstacle infranchissable à cette union. Je plains sincèrement l'accusation de ne pas comprendre qu'un homme jeune, indépendant, maître d'une fortune évaluée à plus de 80 000 francs de rente, a parfaitement le droit de donner son nom à une femme estimable qu'il a aimée, s'il l'a rendue mère. Ce qui suit est d'une délicatesse exquise. Lorsque M. Gentien écrivit sa première lettre d'amour à ma cliente, à sa chère Miss Fauvette, lorsqu'il lui disait « Tout en vous est sympathique, honnête, généreux. J'ai connu bien des jeunes filles dans le monde. Je vous le jure, aucune d'elles n'est si bien douée que vous. » Lorsqu'il ajoutait « Je me sens devenir meilleur auprès de vous. » Marie Bière, je vous demande, pouvait-elle croire que M. Gentien allait la prendre pour une maîtresse à la nuit ? Je sais bien, vous avez dit... Ce n'était plus une enfant, elle avait vécu 10 ans dans le monde des théâtres, elle devait savoir ce que M. Gentien attendait d'elle. Messieurs, en êtes-vous bien sûr? 28 ans, c'était son âge alors. Mais c'est pour la femme frémissante de passion contenue, l'âge le plus propice aux éternels amours. Il nous faut passer par-dessus bien des détails de cette merveilleuse plaidoirie. Maître Lachaud s'applique à montrer quelles effroyables tortures morales sa cliente a subies. Il lit des lettres passionnées, tendres, hélas, impuissantes à ramener l'amant. N'en citons qu'une. Elle est du 5 décembre 1878. Robert, si vous connaissiez les tortures que vous me faites souffrir, lorsque vous êtes 2 jours sans venir me voir, vous verriez des larmes de honte et de regret, car vous n'êtes pas aussi méchant que vous voulez le paraître. Les supplices de l'enfer ne sont rien comparés à ce que j'endure. Il faut que je sois vraiment forte pour résister encore. Ne comblez pas la mesure, Robert. Je suis capable de tout, même de me tuer, pour vous donner des remords et vous troubler dans vos plaisirs. Mais de quel roc est donc sorti votre cœur? Je rougis d'avoir un enfant de vous. Il n'aura aucun bon sentiment et maudira sa mère. Écoute, dis-moi que tu ne changeras jamais. Je te débarrasse des deux en même temps. Il vaut mieux en finir tout de suite, car il y aurait lâcheté à vivre de la vie que vous me faites vivre. Grâce, Homère, grâce, pitié. Laissez-moi vivre, car, je vous jure, je me sens mourir. Je suis à vos genoux, je pleure, je t'implore, reviens, aime-moi. Je t'aime en perdre la raison ou la vie.
Marie. C'est là, dit M. Lachaud, que se révèle le cœur de la femme, dans ses lettres à la fois inspirées par la colère et par l'amour. Ainsi le cœur féminin est ballotté, entre l'indignation qui le soulève et l'espérance qui vient le calmer, que l'indifférent fasse un pas, que l'infidèle reprenne le chemin de la maison où l'on aime, où dort son enfant nouveau-né, alors les fureurs s'éteindront. Il reviendra bien vite, mon Robert adoré. La péroraison est très dramatique. Dieu a préservé les jours de M. Gentien.
mais il lui a imposé un châtiment terrible, ses audiences. Marie-Bière a donné sa parole qu'elle ne toucherait plus à celui que maintenant elle méprise. Croyez-la, car elle n'a jamais menti. La condamnerez-vous? Non, messieurs. Vous direz qu'il y a une limite aux forces humaines. Vous direz qu'au-dessus de la vie de l'homme, il y a quelque chose de plus respectable encore, l'honneur. Applaudissements. Voyez plus loin qu'un acte regrettable et demandez-vous si cet homme ne doit pas être donné en exemple aux sceptiques qui vivent à l'âge ancien. Ce sera le grand enseignement de ce procès. Très ému lui-même, Maître Lachaud se tourne vers sa cliente et termine en ces termes. Courage, mon enfant, la vie est dure, car cet homme vous a tout pris, honneur, avenir, tranquillité d'âme. Vous souffrez beaucoup, la liberté ne vous rendra pas le bonheur. Que le verdict d'acquittement qui va être prononcé tout à l'heure vous soit non une consolation, c'est impossible, mais du moins un soulagement. Et peu à peu vous relèverez par le travail, par la vie calme et régulière, et vous arriverez à cette réhabilitation complète que vous souhaitez. Je remets cet infortuné entre vos mains, messieurs les jurés. J'ai confiance en votre justice. Maître Lachaud se rassied au milieu d'un murmure d'admiration. L'audience est suspendue. À la reprise, M. le Président Bachelier prononce son résumé. M. Bachelier est assurément un magistrat des plus intègres. Il avait fait preuve, durant ces longs débats, d'une complète justice. S'est-il laissé entraîner malgré lui hier, dans le sens de l'accusation, pendant ce résumé qui est l'écueil de tous les présidents d'assises? Beaucoup l'ont pensé, et le banc des avocats était déjà des plus houleux lorsque M. le Président prononça à peu près cette phrase. « Messieurs les jurés, ne vous effrayez pas de la peine, elle sera ce que vous voudrez. » À ces mots, Maître Lachaud se lève et « Je demande, dit-il, que les débats soient ouverts. Vous n'avez pas le droit de parler ainsi de la peine. Il faut que messieurs les jurés sachent bien que si cette femme est condamnée sans circonstances atténuantes, c'est la mort. Avec circonstances atténuantes, 50 travaux forcés au minimum. » Des applaudissements prolongés, des cris, des bravos se font entendre dans l'auditoire. Pendant 5 minutes, le tumulte est effroyable. On proteste de toutes parts contre la façon dont les résumés d'assises sont prononcés. Enfin, le calme se rétablit. À 6h30, le jury est conduit dans la salle de ses délibérations. Il en sort moins de 5 minutes après. D'une voix énergique, le chef du jury donne une lecture du verdict. C'est un verdict d'acquittement. Une formidable clameur s'élève dans la salle. Les applaudissements, les bravos les plus enthousiastes saluent cette réponse des jurés. Marie-Bière est ramenée. Elle est très calme. Monsieur le Président donne lecture de l'arrêt qui la quitte. La jeune fille pâlit. Un sourire de bonheur illumine son visage. Elle se penche vers Maître Lachaud et l'embrasse. Une jeune femme, son amie, Madame Delorme, franchit la barre et presse la quitter dans ses bras. Les mains se tendent vers Marie-Bière, vers Maître Lachaud. Une agitation telle que nous n'avons jamais vu une semblable grandit et se prolonge jusqu'à ce qu'enfin le public s'écoule lentement. Lentement. Marie-Bière est mise immédiatement en liberté. Nos lecteurs seront peut-être curieux de savoir ce qu'est devenue Marie-Bière. Non, elle n'est pas rentrée au théâtre. Elle se propose seulement de donner des concerts.